Vous l'avez forcément vu, c'est un petit bout de femme, les cheveux courts, débardeur noir, bracelet de couleur. Un petit bout qui semble si fort soudain devant son pupitre et devant cette assemblée qui scande ses mots et sa colère. Si fort qu'il surgit soudain quelque chose de l'ordre de l'harmonie. Si fort même quand sa voix se brise ce samedi-là en évoquant les morts de son lycée de Floride. Ce discours, cette prise de parole sur scène, on a dit qu'ils étaient vibrants. Et la voix d'Emma Gonzalez qui interpelle le président, le lobby des armes aux États-Unis et le monde entier pendant 10 belles minutes, elle a ceci de vibrant, effectivement, qu'elle sonne comme un chant de révolte. De ces chants dont on s'est dit un jour, ça y est, qu'il pourrait tout changer. Et quand une petite voix nous disait « t'es con, c'est qu'une chanson », on la faisait taire, cette petite voix, parce qu'on voulait y croire. N'en déplaise aux cyniques, aux réalistes, aux pragmatiques qui nous traitaient d'idéalistes ou de bien-pensants. Parce qu'il y avait, à ce moment-là, dans le rythme, l'harmonie, la vibration collective, il y avait une infime chance qu'elle puisse tout changer, effectivement, cette chanson. Et rien que pour ça, on la laissait résonner dans le monde entier.
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est depuis plus de 50 ans l'une des figures emblématiques de la chanson engagée. Elle a été de tous les combats, de la lutte pour les droits civiques à celle contre le réchauffement climatique, en passant par toutes les résistances pour la paix et la liberté en Pologne, au Chili, en Argentine, au Brésil, en Bosnie. Son nouvel album Whistle Down the Wind sort la semaine prochaine à l'aube d'une tournée d'adieu durant laquelle elle posera sa guitare sur la scène de l'Olympia. Bonjour John Baez.
Bonjour, merci.
Merci tellement d'être là. Je me pose la question et j'ai envie de vous la poser face à l'injustice. Que peut une chanson, ses paroles, sa musique?
I think a song, if it's accompanied
une
with
chanson,
action,
can si do elle est accompagnée d'action, peut accomplir ce que rien d'autre ne peut accomplir, je crois. Mais l'une sans l'autre, il y a un manque. La musique reste uniquement de la belle musique, l'action reste de l'action. Mais quand on mêle les deux, c'est extraordinaire les résultats qu'on peut obtenir.
Il y a eu un moment quand même dans votre carrière où vous avez cru qu'une chanson pouvait changer les choses radicalement, changer le monde.
Well, I was smart enough to know that not one thing was going to change the world.
Bon, en même temps, je savais que ce n'était pas un seul événement qui pouvait changer le monde, mais qu'on pouvait progresser par paliers, que chaque jour, on allait changer quelque chose. C'est ce qui s'est produit. Et c'est vrai que quand on fait le bilan de la journée, ben voilà, on peut mesurer les progrès accomplis, on ne se décourage pas.
La chanson protestataire, c'est un genre qui a fleuri dans les années 60. C'était un moyen de mobiliser les gens pour de grandes causes. Comment est-ce que vous expliquez que la chanson, aujourd'hui, est un peu perdue de ce pouvoir de mobilisation, qu'il existe beaucoup moins de chansons engagées comme celles que vous avez pu chanter?
I think the first part of the explanation is
Je crois qu'une première explication, c'est qu'il y a eu cette période d'environ 10 ans à cheval sur les années 60-70, où on a assisté à une véritable explosion de talent et une force d'engagement qui se stimulait l'un l'autre, et cette époque était sans précédent et ne va pas se reproduire. Donc il ne faut pas essayer de reproduire cette période enchantée, il faut se demander ce qu'on peut faire maintenant. Sur le plan musical, je crois qu'il y a beaucoup de bonnes chansons qui sont écrites, mais pour ce qui est de cet hymne, ce chant de ralliement comme Blowing in the Wind ou We Shall Overcome, là, on manque de liant, de ciment pour avancer tous ensemble.
Ça dit quelque chose effectivement de notre époque, et peut-être que l'individualisme a pris le pas, que le public veut un peu moins de chansons engagées, qu'il demande avant tout à être diverti.
Well, I know that, and I didn't think of it at the time, but in the 50s, when I started getting
je n'y pensais pas à l'époque, mais dans les années 50, quand je me suis intéressée à la musique folk, c'était pour se rebeller contre ce qu'on appelait la musique chewing-gum, sans substance, sans fond du tout. Et un mouvement s'est développé en réaction contre cette musique chewing-gum. Donc, à l'époque, on représentait une contre-culture, mais on est finalement devenu une immense culture en Amérique.
Alors, quel regard, précisément, John Baez, est-ce que vous portez aujourd'hui sur l'engagement politique, sur la musique et l'engagement politique?
I think there's a minimal amount of meaning in,
je crois qu'aujourd'hui, il y a très peu de substance, de fond, quand on regarde la cérémonie des prix des Grammys. Il s'agit uniquement de divertissement et pas de musique. Je me rappelle quand on a vu Taylor Swift, quelqu'un a dit « Bon, elle a mieux chanté que d'habitude, mais je préfère ses autres performances. » Voilà. Donc, en gros, ça n'a rien à voir avec la voix.
Du coup, la question qu'il faut se poser, c'est comment de nouveau mobiliser les peuples.
You know, I'm sure you saw that 17-year-old girl.
Je suis sûre que vous avez vu à la télévision cette jeune adolescente de 17 ans qui était absolument furieuse. Donc, je crois que l'espoir, c'est du côté des jeunes. Je suis bien plus âgée que cette jeune fille. Mais elle a osé dire, voilà, j'ai peur de me rendre au lycée. On en a marre, on en a assez, ça suffit. Nous ne sommes pas en sécurité. Et M. Trump, c'est la faute du lobby des armes. Donc ça m'a donné de l'espoir. Je crois d'ailleurs que c'est le seul espoir que nous ayons contre toute cette turpitude. C'est notre seule chance de renouer avec l'espoir. Mais je trouve que pour l'instant, on prend le chemin d'un État fasciste.
Vous parlez évidemment du discours vibrant de la jeune Emma Gonzalez qui s'est adressée directement au président des États-Unis pour lui demander de changer la loi sur les armes la semaine dernière à l'issue de cette fusillade dans un lycée à Parkland, en Floride. Quand vous regardez les États-Unis aujourd'hui, vous voyez quoi, John Baez?
Je vois
une situation que nous n'aurions jamais pu imaginer, on n'aurait jamais pu écrire une pièce là-dessus. Chaque jour arrive un nouveau choc et tous les jours on se dit on ne devrait plus être choqué. Mais à chaque fois surviennent de nouvelles atrocités de la part de cette bande de voleurs qui s'appelle gouvernement, même s'il y a, ils changent les pions toutes les 4 heures, ils se font virer. Mais ils font corps et je crois que tout ça c'est une question d'argent, tout simplement. C'est même pas une question de pouvoir. C'est un immense reality show qui ne s'occupe que d'argent.
N'êtes pas tendre avec le président Donald Trump, John Baez. Jusqu'à l'année dernière même, vous avez écrit cette petite chanson intitulée Nasty Man, qui nous a tous et toutes réjouis. Souvenez-vous.
Well, that's my little song about a man gone wrong. He's nasty from his head to his feet. And when the dirt on this man finally hits the fan, and no one gives a damn about his tweets, he'll be finally and forever obsolete.
C'était dans le salon de mes amis.
Nasty man, méchant homme, John Baez. À votre avis, est-ce qu'il l'a écouté, votre chanson, Donald Trump?
J'ai été un peu vexée de ne pas recevoir de tweet.
Ça, c'est l'ultime honneur de recevoir un tweet de Donald Trump, effectivement. Il y a quand même quelque chose qui se passe actuellement aux États-Unis, qu'il s'agisse de la dénonciation du racisme avec le mouvement Black Lives Matter qui se poursuit, de la dénonciation du sexisme avec le mouvement Me Too et Time's Up, et maintenant de ce très controversé deuxième amendement qui autorise le port d'armes. La mobilisation, elle existe plus que jamais, j'ai l'impression. Et si l'esprit des années 60 était en train de se réveiller?
We have a gift from Donald Trump. It is that some people who
on a reçu un petit cadeau de Donald Trump, à savoir que certaines personnes qui n'auraient jamais bougé de leur canapé se disent tout à coup, il faut que je me lève, que j'aille dans la rue. Et c'est dans la rue que s'expriment des millions de femmes aujourd'hui. Et je pense que cette force va affecter ce gouvernement. Le gouvernement qu'on a actuellement, il a été planifié pendant 40 ans dans les think tanks, les cercles de réflexion des conservateurs. Ils ont tous les éléments de langage, ils sont malins, ils mentent effrontément, et plus le mensonge est gros, plus on y croit. Donc pour revenir à votre question, oui, il y a un fort esprit de rébellion quand même, de résistance. Et vous connaissez le journaliste ultra-conservateur George Will et à l'autre bout du spectre, le documentariste de gauche progressiste Michael Moore, ils disent la même chose. Le seul salut pour les États-Unis, c'est que les gens se lèvent, se dressent et aillent dans la rue.
Alors quelle révolte précisément, quelle révolution est-ce que vous rêvez pour votre pays?
Well, you know me. I always dream about non-violent revolution.
Bon, vous me connaissez. Moi, je rêve toujours d'une révolution non violente. Et quand j'ai écouté la petite Emma Gonzalez, je me suis dit, oh, j'adorerais parler avec elle et lui présenter le concept de la non-violence avant que peut-être elle ne prenne le chemin d'une immense colère. Mais elle a l'air tellement intelligente. Les jeunes d'aujourd'hui sont si intelligents. Oui, j'adorerais lui parler.
On retrouve cet engagement, Joan Baez, cette révolte aussi dans votre nouvel album Whistle Down the Wind, un album où vous reprenez des titres écrits par Tom Waits, Josh Ritter, Richard Thompson, entre autres. Cet album, il paraît que c'est le dernier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Well, with this, it may not be the last album.
Bon, c'est peut-être pas le dernier album, mais en tout cas, c'est la dernière année d'une grande tournée, 6 semaines sur la route, tous les 2 jours, je monte sur scène, je joue pendant 2-3 heures, je dois me préparer pour cette tournée. C'est ça auquel je mets un terme.
Mais John, qui va vous remplacer?
Well, nobody ever could.
Je suis irremplaçable.
Il n'y aura plus de concert?
I mean, somebody calls and would you come
si quelqu'un m'appelle et me demande de venir participer à un festival, jouer une vingtaine de minutes, moi je vais dire oui. Je crois que c'était cette tournée interminable que je trouvais épuisante. Et puis, c'est ma voix aussi qui me limite, qui me dicte ce que je peux faire. Et je dois écouter ce que me dit ma voix. Mais pour cet album, si tout à coup je décide, je veux faire un album particulier sur un sujet, bon, je laisse la porte ouverte. Je ne vais pas vous dire c'est le dernier.
Mais de toute façon, je vais vous faire changer d'avis et je propose de lancer une pétition sur le net qui s'appellerait Joan Don't Go. Et pour que les auditeurs rejoignent ma cause, je propose qu'on revienne ensemble quand même et en musique sur quelques-unes de vos plus grandes chansons. Est-ce que vous êtes prête?
Of course.
Alors on y va. On souffle un grand coup.
Before they're forever burned, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Et soudain, on est beau, hein? On est beau pour toujours. On est prêt à tout surmonter. Pas n'importe comment, avec cette bonne vieille Dixie sur la route. Avec Nicola and Bart.
Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph.
Puis une dernière pour la route parce qu'il faut forcément choisir.
10 years ago I bought you some cufflinks. You brought me diamonds and rust.
Diamonds and Rust, une chanson que vous avez écrite, Joan Baez, adressée à Bob Dylan. Les chansons de Dylan, vous les avez beaucoup chantées. La première chose qui vous a attiré chez lui, c'était quoi?
The talent. It was this grubby little kid in the grubby little folk club.
Je découvrais ce petit morveux, un gamin un peu crado, qui chantait des paroles superbes avec sa drôle de voix. Et moi, je savais que c'était une bombe.
Immédiatement. Quel regard est-ce que vous portez, Joan Baez, sur celle que vous étiez à l'époque? On est au début des années 60 à New York.
Fairly innocent.
J'étais assez innocente, déjà très engagée politiquement, mais à un moment j'ai perdu de vue l'engagement politique parce que je suis tombée amoureuse d'un étudiant d'Harvard. Dans mon premier album, il n'y avait rien de politique, j'étais trop occupée à courir pieds nus dans Harvard Square pour me faufiler dans le dortoir des hommes pour trouver mon ami. Donc c'est difficile de me relier à la jeune personne que j'étais. Ma voix a beaucoup changé, mais je suis fière de cette personne.
Pourquoi je vous pose la question ? Parce qu'on a fait de vous l'icône d'une génération et très vite, dès vos débuts, on vous affuble du surnom assez étonnant de la Vierge Marie Folk. On vous présente comme une sorte de Jeanne d'Arc moderne. Cette image, elle a dû quand même un peu vous peser.
Well, I don't think so. I mean, I think
pas
I accepted
vraiment.
What other people would consider a burden.
Ce que d'autres considèrent comme un fardeau, bon, je l'ai accepté, c'est ma vie, c'était
yeah,
pas un problème.
Flattery will get you anywhere.
Et puis, bon, vous savez, rien ne résiste à la flatterie, et j'étais très flattée.
Qu'est-ce qu'elle avait de vrai, cette image?
I was a virgin when I moved.
Ben, j'étais encore vierge lorsque je me baladais à Harvard Square.
Et comment vous avez fait pour vous en libérer quand même de cette image?
Well, I had to let people know I had a sense of humor, and that
il fallait que je fasse comprendre aux gens que j'avais un sens de l'humour et il m'a fallu des années à cause de cette image qui m'était collée. Mais en fait, j'avais peur de tout ça. Il y avait la guitare entre moi et le monde pour me protéger. Mais en réalité, j'étais terrifiée. J'avais peur d'être aspirée par le monde du divertissement, de la publicité. Et c'était une peur terrible et personne ne devinait que j'étais morte de trac, que j'étais terrifiée. Mais je me présentais comme une petite personne sûre de moi et les gens disaient « Oh, elle est tellement calme !» Alors que dans ma tête, c'était la tempête.
À quel moment est-ce que vous êtes devenu punk, John Baez?
Punk? My favorite expression right now.
J'ai une expression favorite actuellement. C'est un jeune chanteur qui l'a dit. Il m'a dit, oh, toi, t'es vraiment badass.
That's wonderful.
Vous êtes badass?
So been pretty. Yeah, I'm badass.
Pareil que vous êtes tatoué.
Yes, c'est petite, mais c'est là. It's from Maui.
Ça vient de la culture maori, ça représente toute votre histoire, celle de votre famille, votre vie spirituelle.
C'est vrai que moi aussi j'ai des tatouages partout. J'ai des phrases de Faulkner, de Kerouac, de Johnny Mitchell.
Nice.
Peut-être un jour j'en aurai une de vous. Si vous deviez vous faire tatouer une parole de chanson sur le corps, ce serait quoi?
Let's see. Oh, voyons. Is there too many to choose from?
Oh, il y en a trop, j'arriverai pas à choisir. La première époque, c'était des ballades, et puis il y a eu la période intermédiaire. Non, je peux pas répondre à cette question.
Je vais vous laisser réfléchir pendant que vous chantez, parce que vous nous faites l'honneur de nous chanter une chanson de Tom Waits, qui s'appelle Last Leaf, aujourd'hui. Vous êtes prête?
Yeah, je suis prête.
Alors, vous prenez votre guitare.
It's a little bit of a joke because it's the last leaf on the tree.
C'est un petit peu une blague parce que c'est la dernière feuille de l'arbre. Expliquez.
La dernière feuille sur l'arbre, la toute dernière.
Tree. Autumn took the rest, but it won't take me. I'm the last leaf on the tree. When the autumn wind blows, they've already gone. They've flooded to the ground, 'cause they can't hang on. And there's nothing in the world that I ain't seen. I greet all of the new ones that are coming in green. And I'm the last leaf on the tree. The autumn took the rest, but it won't take me. I'm the last leaf on the tree. They say I've got staying power here on the tree. I've been here since Eisenhower outlived even he. I'm the last leaf on the tree. The autumn took the rest,
but it won't take me. I'm the last leaf on the tree. I fight off the snow and I fight off the hail. Nothing makes me go. I'm like some vestigial tale, and I'll be here through eternity. If you wanna know how long, if they cut down this tree, I'll show up in a song, and I'm the last leaf on the tree. Autumn took the rest, but it won't take me. I'm the last leaf. I'm the last leaf. I'm the last leaf on the tree.
John Baez en live dans le studio 611 de France Inter. Ce mardi matin, elle est en face de moi, quelque part entre Mona Lisa, Dora Maar et un autoportrait de Frida Kahlo. Regard énigmatique derrière ses petites lunettes. Elle a ce charisme, mi-Madone, mi-Granny, vous savez, des prêtresses antiques, avec ses cheveux gris, poivre et sel, ses yeux marrons, de petit écureuil mignon, son format poche, câlin ronron. Elle est habillée d'un col roulé rouge, veste noire, invitée de Boomerang, donc John Baez, pour la sortie début mars de ce nouvel album Whistle Down the Wind. Et à l'écoute du titre que l'on vient d'entendre, on se dit quand même, cette voix, c'est quelque chose. Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer, votre voix ?
It evolved partly because gravity becomes the main force.
Parce que la gravité devient la force principale quand on vieillit. À la fin, c'est la gravité qui gagne. La voix, c'est un muscle. Donc, c'est comme pour un joueur de tennis. Il faut qu'il continue de s'exercer, de s'entraîner. Et puis, quand on arrive à 70 ans, on n'y arrive plus. On n'arrive plus à faire fonctionner ses muscles comme il le fonctionnait avant. Donc, je dois me réinventer.
Alors, quel travail est-ce que c'est précisément ?
C'est un travail
de vocalisation, de vocalise. Je vais voir un thérapeute de la voix et je continue de m'entraîner. J'ai des exercices que je fais à la maison. Si je m'arrête, tout va s'effondrer.
Quand est-ce que vous avez découvert que vous aviez une voix ?
Quand j'avais 13 ans, j'ai commencé à jouer du ukulélé. À 15 ans, j'ai eu une guitare. Mais ce n'est qu'à l'âge de 17, 18 ans que je me suis dit, tiens, peut-être. Et beaucoup de gens croyaient que je voulais juste gagner de l'argent, être riche et célèbre. Et moi, je leur disais, mais non, je veux juste chanter.
Je me pose la question de comment s'est faite votre éducation musicale, John Baez. Par exemple, ces si belles harmonies pour lesquelles vous êtes connu.
They came naturally.
Elles me sont venues naturellement. Je n'ai pas eu de formation. Mais chez nous, dans la famille, on savait harmoniser. Je crois qu'on est né avec.
Avec un don.
Yes, another cadeau.
Je pose la question aussi parce que vous avez énormément voyagé pendant votre prime enfance. Votre père travaillait pour l'UNESCO. Vous avez vécu à Bagdad, à Paris, à Bangkok. Quelle enfance est-ce que ça a été ?
We moved a lot.
Oui, on bougeait
and
tout
I think
le temps.
Now we would look back, both my sisters are gone.
Et quand je regarde en arrière, bon, mes sœurs ne sont plus là, mais really je crois qu'on se dirait toutes les trois, bon, c'était difficile. Quand on était gamin, déménager sans cesse, mais avec le recul, je suis ravie. Ça nous a beaucoup appris. Ça nous a rendu différents des autres gosses à l'école.
Qu'est-ce que vous avez gagné précisément?
Seeing what how other people lived.
Eh bien, on a vu comment vivaient d'autres gens à l'autre bout du monde. Et la distance colossale entre ce qu'on possédait, même si on était de la petite classe moyenne, mais j'étais tellement gâtée par rapport à la pauvreté qui régnait à Bagdad, par exemple, en 1951, vous imaginez.
Et les angoisses dont vous parliez tout à l'heure, vous les aviez déjà ?
Oui,
bon, à l'époque, on n'appelait pas ça des crise de panique, mais oui, j'avais des angoisses.
Qu'est-ce qui vous faisait peur à l'époque, quand vous étiez petite, votre plus grande peur d'enfant ?
When it's phobic, there's no reason.
Mais vous savez, quand c'est phobique, il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui nous fasse peur. C'est quelque chose qu'on a en nous qui se dérègle.
Et c'est chanter, John Baez, c'est faire de la musique qui vous a permis de contrôler tout ça.
Oui,
je vous disais tout à l'heure que je me sers de la guitare comme un rempart.
Comme un mur. Hein.
Yeah, it was like a wall. And also,
oui, I mean, I was comme un mur.
Fairly isolated when I was 14,
et puis, j'étais assez seule, assez isolée quand j'avais 13, 14 ans. Mais j'ai découvert que quand j'apportais mon ukulélé à la cantine, à l'école, et que je chantais à la cantine, j'avais pas d'amis, mais j'avais des admirateurs, ce qui était mieux que rien.
Et vous chantiez quoi ?
Rhythm and blues. Rhythm and blues.
Du rhythm and blues.
Par exemple,
Johnny Hayes, The Penguins.
Johnny Hayes. The Penguins, Moon Glows. Bon, toutes les chansons pour lesquelles il fallait 3-4 accords maximum. Je pouvais les jouer au ukulélé.
Et puis il y a la France, John Baez. Quel souvenir est-ce que vous avez de la France?
D'abord, je suis venue une première fois en France à l'âge de 10 ans. C'était une expérience fantastique. Je crois que c'était la première fois que j'allais à l'étranger. Oui. Et j'ai adoré. Et quand j'y suis retournée, j'avais 22, 23 ans, je suis tombée amoureuse de Paris et de tout le monde à Paris. Tous les beaux hommes que je voyais assis à la terrasse des cafés, je m'imaginais que j'étais quelqu'un d'autre. C'était magique, comme vivre un rêve. Et puis, je suis gâtée, hein. Donc, tout le monde s'occupait bien de moi, était aux petits soins.
Encore aujourd'hui, vous vous sentez un peu chez vous ?
Oui, tout à fait. J'ai passé pas mal de temps en Normandie. Avec les amis que j'ai là-bas. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai appris le français. Il faudrait que j'y retourne, d'ailleurs.
La ferveur du public français pour John Baez, vous l'expliquez comment ?
Je ne l'explique pas. Mais bon, j'ai fait l'effort d'apprendre le français, des chansons en français.
Vous ne lui devez rien au public français, mais peut-être que vous pourriez lui faire un cadeau et chanter une autre chanson, une dernière,
ah oui, oui.
Avant de se
mais
séparer.
Mais il faut accorder.
Il faut l'accorder ? Bon, on l'accorde alors.
Okay.
Pas de problème.
Well, tune it. This is an amazing little song.
Alors ça, c'est une petite chanson formidable, écrite il y a un an ou deux ans par une jeune auteure-compositrice qui s'appelle Zoe Mulford. C'est une chanson très simple et en quelques vers, elle nous raconte l'histoire suivante. Le jour où le président Obama s'est rendu à Charleston, où il y avait eu une tuerie de masse dans une église. Et il est allé consoler toutes les personnes endeuillées. C'était une église fréquentée par des Noirs.
Et
oui, ça me fait pleurer quand j'évoque ce moment. Mais il se demandait quoi dire et il s'est penché vers le micro. Il s'est mis à chanter Amazing Grace. Aucun autre président n'aurait pu faire cela. Et ça a ému tout le monde d'entendre le président chanter Amazing Grace.
Et elle va résonner cette chanson ce matin.
A young man came to a house of prayer. They did not ask what brought him there. He was not friend, he was not kin. But they opened the door and they let him in. And for an hour the stranger stayed. He sat with them and he seemed to pray. But then that young man drew a gun and killed 9 people, old and young. In Charleston, in the month of June, the mourners gathered in a room. The president came to speak some words, and the cameras rolled, and the nation heard. But no one could say what must be said for all the living and the dead. So on that day and in that place, the president sang Amazing Grace. The president sang Amazing Grace. We argued where to lay the blame. on one man's hate or a nation's shame, some sickness for the mind and soul, and how the wounds might be made home. But no one could say what must be said for all the living and the dead. So on that day and in that place, the president sang Amazing Grace. My president sang Amazing Grace.
President sang Amazing Grace. Le président chanta Amazing Grace. Merci tellement, John Baez, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Merci aussi à votre interprète ce matin, Eve Dare. Vous n'imaginez pas ce que ça signifie pour moi. Je rappelle que votre nouvel album Whistle Down the Wind sort le 2 mars, que vous serez bientôt en tournée, notamment du 4 au 17 juin à l'Olympia. Sans oublier Jazz in Marciac le 12 août. Vous me promettez qu'il ne s'agit que d'un au revoir.
Of course I'll come back.
Bien sûr, je reviendrai.
Donc, vous écoute en ce moment une certaine Sonia de Villers qui partage avec moi une sorte de culte envers vous. Vous m'entendez, Sonia?
Oui, je vous entends, Augustin. Mais parfois, j'aimerais bien... On pourrait, comment dire, changer la grille de France Inter. On pourrait renoncer à l'actualité des médias et à l'intoem, et on pourrait passer une heure avec John Baez. En fait, j'ai envie de vous laisser l'antenne.
Je sais que ça,
j'ai envie
ça,
que ça dure. Bah oui.
Évidemment. Mais du coup, puisqu'on a un peu de temps, je voudrais remercier les formidables techniciens de Radio France, Juliette Delperroux et Nicolas Slimani, pour la prise de son, puisque vous m'en donnez l'occasion. C'était effectivement une immense émotion.
Immense émotion. Et moi, un jour, j'ai vu John Baez en concert à l'Olympia et elle a fait tout le concert avec des grosses baskets blanches américaines, pas classe du tout. Et au milieu du concert, elle a éclaté de rire. Elle a dit, vous savez, j'ai fait tellement de manifs dans ma vie que j'ai très mal aux pieds.
C'était l'anecdote du matin par Sonia de Villers.
C'est mon idole. Salut Augustin.
Je vous embrasse
demain.
Très fort et
merci
je vous vois
beaucoup.
Demain. Salut.